je pense que c'est tout le contraire. Aujourd'hui, en France, indépendamment du dogme, qui n'était pas un problème d'éducation nationale, mais un problème de l'enseignement de l'histoire, où on est sérieux en France. C'est-à-dire que si on demande la date de Marignan à quelqu'un et qu'il dit 1516, ben, il a zéro. Qu'il dise 1516 ou 1942, d'ailleurs, il a zéro. Il n'a pas 0,8 ou 0,9 sur 1. Donc, en France, c'est 1515, 20 sur 20, ou autre chose, zéro. Donc, il n'y a pas d'approche de l'histoire, en général, dans l'enseignement. Je caricature, mais c'est ce que j'ai vécu, gamin. Hein. Donc, il n'y a pas d'approche de l'histoire, je dirais, proportionnelle. Ça, c'est l'habitude française. Hein. C'est qu'on a une approche mathématique de l'histoire, et on considère que l'histoire écrite, quitte à d'ailleurs à la réviser, d'ailleurs, dans le manuel suivant, mais l'histoire écrite, en tout cas, à l'instant où elle est écrite, est l'histoire officielle et la véridique. L'approche anglo-saxonne est beaucoup plus souple, mais néanmoins, entre cette approche historique, ça change quand même. Ça change par des initiatives personnelles. Je disais tout à l'heure qu'on est de plus en plus... moi, j'ai de plus en plus sollicité, mais je sais que des professeurs le font régulièrement. On le voit des ateliers. Je suis allé faire des interventions dans des classes où le professeur me disait... Si quelqu'un m'écoute sur les 20 élèves sur 5 minutes dans l'année, je n'ai pas perdu mon année. Donc, des classes de première ou de terminale, disons, dans des zones très défavorisées ou très à risque, et où, en plus, j'avais une représentativité de la classe qui était principalement, bon, j'en prends un exemple en tête, 90%, j'avais en face des jeunes musulmans antisémites devant moi. Et donc, quand je commençais la Seconde Guerre mondiale, d'abord, je ne commençais pas la Seconde Guerre mondiale, je commençais par une uchronie de la Starak. Parce que ça accroche tout de suite la classe. Et donc, vous pouvez commencer à délirer avec eux pendant à peu près une demi-heure et pour revenir sur des trucs sérieux. Parce que de toute façon, si on attaque d'emblée sur un truc, entre guillemets, sérieux, je ne dis pas que la Starak n'est pas sérieux, hein, ça, j'assume, hein, il y a peut-être des fans de la Starak, je vous prie de m'excuser. Mais en tout cas, il faut s'intéresser, il faut prendre le télépoche ou parler avec son ado la semaine d'avant, hein, avant d'aller faire une intervention comme ça, pour savoir ce qu'est à la mode. Et puis inventer une uchronie de la chose qui est à la mode, ça marche tout de suite, ils délirent, on les laisse délirer, ils adorent ça, donc ça marche toujours, c'est très ludique. Et après, à partir de ça, on peut commencer à empiéter sur l'histoire. J'avais pris un malin plaisir à terminer quand même en démontrant que finalement, ce qu'avait fait perdre Hitler, c'était son antisémitisme. C'est une manière provocante d'approcher l'histoire. C'est une des uchronies qui m'a toujours plu, c'est que, somme toute, comme les grands spécialistes de la physique nucléaire avant-guerre étaient presque juifs ou mariés à une juive, je prends le cas de Fermi, ils ont plus ou moins tous émigré, mais d'ailleurs, ils se sont tous retrouvés, ils ont fait un fan club à Los Alamos, si on sait ce que ça a donné. Et donc, somme toute, si c'est une uchronie que j'aime bien, mais parce qu'elle est pédagogique, historique, je ne sais pas, ou cohérente, j'en sais rien. Et comme je dis, si Hitler est exactement le même personnage qu'il était, à une exception près, il n'est pas antisémite. C'est-à-dire, il a tout le reste. Il veut une grande Allemagne, il veut tout ce qu'il veut, etc. Mais il n'est pas antisémite. Il n'y a aucune raison que son régime fasse fuir ces gens-là. Et donc, au lieu d'avoir un régime basé sur la fusée, faute de mieux, parce que c'est ce qui reste comme physique de pointe, ils ont bien effectivement tous les spécialistes nucléaires. Il n'y a absolument aucune raison qu'il n'ait pas l'arme atomique avant tout le monde. Et donc, de manière extrêmement ironique, j'avais quand même réussi à finir sur une classe qui n'avait pas vraiment voulu entendre au départ parler de la Shoah et qui d'ailleurs même me disait que ça n'existe pas. On rigole, mais je rappelle quand même que le gouvernement anglais l'année dernière a pris une décision sous la pression des lobbies pakistanais et autres de Londres de rayer toute référence à la Shoah des livres d'histoire parce que les représentants de la communauté pakistanaise disaient que la Shoah n'existe pas et qu'ils considéraient qu'on n'a pas à enseigner à leurs enfants dans les écoles anglaises quelque chose qui n'existe pas. Donc le gouvernement anglais qui a quand même une loi aujourd'hui beaucoup plus permissive qu'en France, sous la pression des associations de parents d'élèves, a quand même rayé ça des livres d'histoire. Donc aujourd'hui, dans la Seconde Guerre mondiale, la destruction des Juifs n'est plus enseignée en école normale anglaise. Hein. Et il n'y a pas eu de débat dans ce pays-là, malheureusement, je dirais, à cause de la permissivité de cette loi. Donc en France, on avait quand même réussi à finir sur cette ironie. Alors je ne sais pas comment elle a été interprétée, d'ailleurs, finalement, en face. Hein. C'est un autre point. Mais avec les jeunes, on peut quand même arriver à condition au départ de démarrer sur ce qui les intéresse, et comme toujours d'ailleurs, sinon, moi je ne suis pas enseignant, hein, je le fais une fois de temps en temps, si je devais le faire tous les jours, je serais très mauvais. Parce qu'il faut beaucoup de courage, je pense, pour faire ça au jour le jour. Mais on peut arriver quand même à essayer de les rattacher à des concepts plus sérieux, si je puis me permettre, ou plus historiques à l'arrivée. Non, Goebbels disait que ce sont les vainqueurs qui ont le droit d'écrire l'histoire. Il en sait quelque chose, il a perdu. Non, en général, effectivement, vous avez raison. C'est souvent, dans notre histoire, c'est vrai aussi. Je veux dire, dans l'histoire, c'est un fait. Celui qui gagne écrit l'histoire. Bon, okay, donc il la présente comme il veut après. Alors bon, on a bien vu tout à l'heure, prenez l'exemple de Mauméjean. Vous avez quand même pas mal de gens qui ont une connaissance historique. Mauméjean est quelqu'un qui a une formation philosophique et théologique, donc ça lui permet des approches des fois antiques intéressantes. Je ne sais pas s'il trouve le lectorat, parce que sa difficulté est là. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la connaissance du lectorat dans l'approche. Mais on peut, de temps en temps, en remontant, en faisant des points de divergence assez anciens, construire des schémas de pensée très différents et arriver à imaginer des mondes où un petit peu ces biais-là ne sont pas forcément des données de base. Mais, pas évident. Hein.
Peut-être pour généraliser, mon but, moi, de cette collection, qui est la première collection vraiment typée Uchronie, alors qu'il y a plein de bouquins qui sortent chaque année, et moi je me désespère qu'il n'y ait pas une collection Uchronique adulte, c'est de sortir justement ce thème-là de la science-fiction. Exactement comme la fantaisie est sortie il y a 30 ans. Alors je vois bien les puristes, comme Jean-Pierre, qui dit non, on est en train de nous déposséder de tout ce qui est intéressant. Non, moi je veux effectivement que ce genre-là grandisse et devienne un compagnon de la science-fiction, et non pas une émanation. Parce qu'elle va ramener tout un temps d'amateurs de science-fiction qui, eux, effectivement, ont ce schéma de pensée, etc. Mais moi, je veux qu'il y ait justement des gens qui sont effrayés par la science-fiction, ce qui n'est pas le cas ici, généralement, mais qui vont accepter ce pas en avant vers l'histoire et peut-être après faire de deuxième pas vers la science-fiction.
C'est la difficulté française. Hein, c'est que quand vous écrivez un essai sur l'Uchronie, ce qui est mon cas, je n'écris pas de fiction. L'avantage, quand vous faites des conférences, d'abord, l'avantage des essais, c'est qu'il n'y a pas de collection, c'est des collections d'essais. Donc, c'est de voir comment les libraires les placent. Alors, les essais se vendent très bien, je me suis rendu compte, parce que selon le libraire, il va vous placer peut-être en science-fiction, et encore, il n'y a pas de raison, puisque, voilà. Mais très souvent, il le met en philosophie, en histoire, ou même, je dirais, dans politique, des fois, j'ai vu, etc. Donc, vous avez tout un pan de gens, alors, ils ne s'excluent pas nécessairement, comme tu disais, mais tout un pan de gens qui d'ailleurs, se connaissent l'Uchronie. Moi, j'ai reçu de l'aide de gens qui n'ont jamais lu un seul livre de voyageurs temporels dans leur vie, mais qui ont une connaissance absolument énorme du domaine uchronique et qu'on collectionne même, etc., qu'on lise énormément, y compris dans plusieurs langues. Il y a tout un paquet de gens qui aiment ça. Alors, en France, en plus, des fois, ils s'ignorent parce que, ça change beaucoup quand même ces dernières années, hein, soyons honnêtes, mais au moins jusqu'à la génération de mes parents, c'était les scientifiques qui lisaient la science-fiction, point barre. Hein. Quand on était littéraire, science-fiction, c'était de la merde. J'ai vu ça parce que je me rappelle quand j'étais en classe, mon prof de maths ou de physique, quand il me voyait lire un truc, il me disait « Ah, j'ai lu ça quand j'étais jeune, Fleuve Noir », il n'en lisait plus. Hein. Mais il avait lu ça, il était prof, il n'en lisait plus. Mais il avait lu ça alors que le prof de français me disait « Vous faites mieux lire des choses intéressantes » ou le prof d'histoire. Bon. Donc il y avait quand même cette approche en France historique qui est en train de changer et donc de fait on l'a retrouvée aussi dans le lectorat, on le veuille ou non. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime l'histoire ne va pas nécessairement au rayon littérature populaire. Et ça, c'est encore vrai pour la fiction. C'est ce que disait Alain. Cette difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup des œuvres uchroniques sont ou publiées par des grands pontes, donc dans leur éditeur, Éric-Emmanuel Schmitt, Dutour, Carrère, publiées dans une collection spécialisée, parce que là, l'auteur est beaucoup moins connu, mais la collection spécialisée est très souvent une collection de science-fiction ou autre. Si ce n'est pas une traduction, hein, j'entends bien, parce que Harris est publié effectivement en polar de poche, mais Harris, il a déjà un nom, il a déjà un lectorat comme un certain nombre d'autres, donc il y a ceux qui disent Harris qui vont acheter ça.
Ça
peut bien avancer. Surtout, je pense que maintenant, il fait faim. Voilà, donc on va peut-être clôturer dans la joie et la bonne humeur. Et puis donc, je vous invite à aller sur les différents stands où vous trouverez plein d'œuvres de fiction intéressantes.